Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Nous commençons un nouvel article du catéchisme de l'Église catholique aujourd'hui. C'est l'article 9.
L'article 9.
Et qui s'intitule, je crois, à la Sainte Église catholique. Et cet article commence au numéro 748 par une citation d'un texte issu de, ça s'appelle, c'est intitulé « La constitution dogmatique sur l'Église du deuxième concile du Vatican ». Alors voilà une expression bien difficile, me semble-t-il, à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, quel est ce document intitulé « Constitution dogmatique sur l'Église du deuxième concile du Vatican ».
Alors c'est le document le plus important du concile Vatican II. Un peu comme dans un pays, on fait une constitution et puis on fait des décrets d'application par rapport à une série de lois. Et l'Église a toujours eu le sentiment que Jésus donnait une loi nouvelle et qu'il y avait donc une expression de cette loi nouvelle dans des constitutions avec des décrets d'application. Donc le Concile Vatican II a toujours suivi ses normalités, disons. Elle a promulgué 4 constitutions, ça correspond d'ailleurs à peu près aux 4 parties du catéchisme de l'Église catholique, 4 sens de l'écriture, c'est toujours très structuré et très intelligent par rapport à la révélation. Et la constitution dogmatique donc de l'Église, le mot dogmatique ajoute le fait qu'il y a quelque chose qui nous rassemble autour du mystère de la foi. Alors qu'il y a une constitution pastorale qui va plutôt aller dans le sens de l'agir chrétien, il doit y avoir la constitution liturgique qui va être plutôt tournée vers comment bien prier, et il va y avoir une autre constitution dogmatique, d'ailleurs qu'il ne faut pas oublier, qui fait comme l'équilibre entre la constitution dogmatique sur l'Église, c'est la constitution dogmatique sur la parole de Dieu. Et c'est sûr qu'elle est comme première, elle est comme celle sur laquelle il faudrait d'abord commencer une réflexion, cette constitution dogmatique sur le Verbe de Dieu, parce que tout dépend du Verbe de Dieu. On est bien d'accord. Et la constitution dogmatique sur l'Église va nous montrer comment on passe finalement de l'ancien peuple de Dieu, de la première alliance, au nouveau peuple de Dieu, de la nouvelle alliance. Et donc, c'est une fonction allégorique, c'est-à-dire un autre dire par rapport à ce qui a déjà été dit tout du long de la première alliance, mais analysé sous l'angle du mystère de l'Église. Voilà pourquoi il y a ces 3 termes, à la fois constitution, dogmatique et sur l'Église.
Donc c'est un document très important avec lequel on commence cet article alors.
Exactement, voilà, puisque nous sommes dans la partie sur la foi, donc c'est tout à fait normal qu'on se réfère, surtout sur l'Église, puisque le Concile Vatican II a réuni plus de 3000 évêques du monde entier sur ce mystère de l'Église, mystère qui n'avait pas pu être explicité aussi bien à Vatican I, car il s'était arrêté, on se souvient, en cours de route. Et donc on avait été obligé de bloquer le texte qui était prévu sur l'Église. Et Vatican II a achevé, en fait, ce que Vatican I, en 1870, avait commencé.
Je cite l'extrait de ce texte. Enfin, voici ce que dit la Constitution dogmatique sur l'Église, un de ces extraits. « Le Christ est la lumière des peuples, réunis dans l'Esprit Saint. Le Saint-Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toute créature la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. » Et on lit un tout petit peu plus loin que « l'Église n'a pas d'autre lumière que celle du Christ ». Aurait-on pu, frère Édouard, imaginer d'autres lumières que celle du Christ sur l'Église ?
Oui, il y a la lumière de la création, la lumière naturelle que tout homme possède, je dirais, de par Son intelligence est une forme de lumière qui lui permet de détecter le réel, de le comprendre, de l'assimiler par des concepts à partir de sa sensibilité. Il recueille tout ce que sa sensibilité lui donne du réel, il le fait remonter en lui et il émet en lui, dans son âme, des concepts. Ce sont des illuminations propres. Donc tout homme a déjà une lumière naturelle. Et on peut dire que de ce point de vue-là, il y a déjà un donné par la création, par le fait que nous sommes créés par Dieu, des lumières qui nous sont accordées. Mais on comprend très bien ce que veut dire le Concile Vatican II. Cette lumière, d'abord, peut remonter à Jésus-Christ lui-même, puisque Jésus-Christ est créateur avec le Père dans l'Esprit Saint. On dit bien sûr par appropriation que le Père Tout-Puissant est créateur du ciel et de la terre, mais on se souvient de ce que dit le prologue de Saint Jean, par lui, tout a été fait, et on désigne bien Jésus. Donc, même la lumière naturelle remonte à Jésus. Et de ce point de vue-là, la lumière surnaturelle, c'est-à-dire l'annonce de la bonne nouvelle du dessein d'amour bienveillant de Dieu pour les hommes, eh bien, est répandue depuis l'incarnation, et nous en avons donc à gérer en quelque sorte les effets du mystère en le transmettant de génération en génération. Et cette lumière donc vient toujours du Christ. Dans l'Esprit Saint, évidemment, c'est l'Esprit qui nous est donné par le baptême, par la foi, qui nous permet de découvrir Jésus-Christ, de le recevoir, d'y adhérer. La foi est une adhésion à Jésus-Christ.
Et ça veut dire que sans le Christ, on ne peut pas comprendre l'Église, alors c'est ça c'est...
Alors, sans le Christ, on ne peut pas comprendre l'Église, ça c'est très net. On risque de la ramener seulement à une ONG, hein, organisation non gouvernementale. D'ailleurs, les nouveaux pouvoirs depuis la Révolution française accentuent ce fait de la séparation de l'Église et de l'État, et cherche à réduire, dans le fond, l'Église à une organisation purement privée d'aide, je dirais, aux prochains, d'aide aux autres, mais sans du tout comprendre qu'il s'agit d'une œuvre de salut. C'est beaucoup plus important, puisque tout homme est appelé à appartenir à ce peuple de Dieu. Ce n'est pas seulement une nation, mais toutes les nations. Et c'est une organisation, donc, supranationale, c'est une organisation international, et à juste titre, le Saint-Siège a sa place à l'ONU, l'Organisation nationale des Nations Unies. Donc il y a là quelque chose de très beau de comprendre ce travail que réalise l'Église dans le monde et dans chaque nation, dans chaque Église particulière.
Et elle a une dimension humaine évidente, mais il y a une dimension divine dans l'Église.
Alors voilà, c'est cette dimension qui n'est pas perceptible, je dirais, directement à quelqu'un qui n'a pas la foi, puisqu'il ne voit que l'aspect visible, évidemment. On ne présente que l'aspect visible, et pourtant, nous, de foi, nous savons qu'il y a une dimension invisible. C'est ce que affirme le Concile Vatican II, que l'Église est formée d'un élément visible et d'un élément invisible. Et cet élément invisible, évidemment, c'est la Trinité elle-même qui nous le donne, le Père en envoyant son Fils, le Père et le Fils en soufflant sur nous le Saint-Esprit.
Et sur quoi on va s'appuyer? On dit que le Christ est donc que l'Église n'a pas d'autre lumière que celle du Christ. Il faut qu'on s'appuie sur quoi? Sur Jésus pour comprendre l'Église? Ses enseignements ou simplement sa présence?
Alors c'est à la fois son enseignement et c'est aussi sa présence. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, dit bien Jésus. Donc il est vraiment présent, c'est une présence. Et en même temps, il nous donne des ordres. Baptisez toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant tout ce que je vous ai prescrit depuis le commencement. Donc il y a aussi un enseignement. Il n'y a pas seulement une appartenance et une présence, il y a aussi un enseignement, une orthodoxie, bien dire le mystère, et une orthopraxie, bien pratiquer ce que Jésus nous commande, qui est un commandement à la fois ancien et nouveau, comme dira Saint Jean, nous aimer les uns les autres et aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, de tout notre esprit, hein, faire en sorte que nous soyons conformes finalement à Jésus-Christ.
Et donc quand on est attaqué sur les questions ecclésiales, ou on peut difficilement parler aux médias ou à d'autres personnes qui ne croient pas de l'Église sans faire une référence continue à Jésus-Christ, à l'Évangile, à ses enseignements.
Oui, mais avec la prudence de dire que nous ne sommes pas la source de la lumière, nous sommes qu'une lumière réfléchie. C'est ce que dit d'ailleurs très bien la fin de ce numéro 748. Les pères de l'Église ont comparé cette lumière de l'Église à la lune, dont toute la lumière est reflet du soleil, c'est bien dit. C'est-à-dire, la lune, elle n'a pas de capacité à émettre de la lumière par elle-même. Si le soleil vient à se cacher, eh bien, il y a éclipse de lune, comme on dit. Si jamais, par exemple, la Terre est entre le soleil et la lune, on ne voit plus la lune. Et du coup, il y a éclipse de lune. La lune ne peut être reflet du soleil que si elle est bien éclairée par des rayons qui atteignent la lune sans obstacle. Et nous-mêmes, donc, nous devons avoir l'humilité de dire nous sommes bien sûr cette lumière, et Jésus le dit d'ailleurs lui-même, vous êtes la lumière du monde, mais en même temps il précise dans Saint Jean, ego eimi o faustou cosmou, et il le dit deux fois, et ça signifie je suis la lumière du monde. Et donc c'est très important de comprendre que nous ne sommes lumière que par réflexion, nous ne sommes lumière que dépendant de cette lumière centrale. Alors c'est amusant d'ailleurs parce que la synagogue a repris peut-être plus tardivement d'ailleurs que l'Église, parce qu'il y a toujours eu des effets feedback entre la synagogue post-chrétienne et l'Église elle-même, qui dit que Israël est comme la lune par rapport à Adonai Tzavot, c'est-à-dire que Israël reflète la lumière de Adonai, mais par phases successives, c'est-à-dire parfois la lune décroît et on la voit presque plus, puis elle se met à recroître, donc il y a des alternances de lune, hein, comme nous avons l'habitude, et donc de temps en temps ça brille très fort, c'est magnifique, et puis il y a d'autres moments, on voit presque plus rien, quoi. Et donc la synagogue a repris la même chose.
Eh bien, merci frère Edouard.
Merci.
À la prochaine.
À la prochaine.